Il est 6h en temps universel, 2h de plus ici à Paris, 14h à Pékin.
Clotilde Dumay.
Le journal international, bonjour Gaëtan Plenet.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
Un être bon ce matin pour certaines bourses asiatiques.
Oui, mais gros recul encore pour d'autres, des marchés toujours très fébriles face aux droits de douane de Donald Trump. La Chine dénonce un chantage. Les États-Unis, qui annoncent des négociations directes avec l'Iran sur son programme nucléaire. Des discussions, oui, mais elles sont indirectes, réplique Téhéran. L'Iran, parmi les pays où l'on a le plus pratiqué la peine de mort l'an dernier, le rapport d'Amnesty International a été dévoilé hier. On va parler de Gaza, 19 morts depuis hier soir selon la défense civile locale après de nouvelles frappes israéliennes. Manifestation de soutien aux Gazaouis hier en Mauritanie, on sera à Nouakchott. Et puis le Bayern face à l'Inter et Arsenal contre le Real Madrid. Le début ce soir des quarts de finale de la Ligue des champions de football. Les détails, ce sera dans le journal des sports.
Un guerre commerciale et surenchère après les droits de douane annoncés par Donald Trump la semaine dernière.
La Chine, lourdement concernée, avait annoncé répliquer. Mais dans ce cas, le président américain répliquera lui aussi encore plus fort. Cléa Broadhurst, vous êtes notre envoyée spéciale permanente à Pékin. La facture grimpe de semaine en semaine. Mais malgré les menaces, Cléa, le ministère chinois du commerce promet de se battre jusqu'au bout.
Et oui, parce qu'en fait, pour la Chine, c'est une erreur qui s'ajoute à une erreur en évoquant un réel chantage des États-Unis. Pékin prévient, la Chine n'acceptera jamais cela et prendra résolument des contre-mesures pour sauvegarder ses propres droits et intérêts, tout en annonçant des mesures de soutien à sa propre économie. Parce qu'en réponse aux nouveaux droits de douane américains, Pékin avait dévoilé ses propres taxes de 34% sur une série de produits américains qui entreront en vigueur jeudi. Et Donald Trump, de rétorquer, vous le disiez, d'ajouter 50% supplémentaire, à moins que la Chine ne retire immédiatement ses nouvelles taxes. Et si la mesure est appliquée, si on fait le calcul, les droits de douane américains atteindraient un total inédit de 104% sur les produits chinois. Alors Washington justifie ces hausses comme des représailles contre le trafic de fentanyl, mais surtout contre les déséquilibres commerciaux persistants. Alors sur les marchés, la tension est palpable. Trump, lui, minimise l'impact, mais les conséquences pourraient être durables. Les consommateurs américains risquent de voir les prix grimper. Et Pékin pourrait intensifier ses échanges avec d'autres partenaires, notamment l'Union européenne. Et la Chine pourtant le répète, il n'y a selon elle pas de gagnant dans une guerre commerciale et elle reste officiellement ouverte au dialogue.
À Cléa Broadhurst en direct de Pékin, et vous le disiez Cléa, tension et même panique sur les marchés lundi noir hier et mardi matin, très compliqué aussi pour les bourses asiatiques, moins 9% pour Jakarta, moins 5% au Vietnam, moins 3% à Taïwan. Ça allait mieux, cela dit, à Hong Kong, Sydney ou encore à Tokyo qui elle a rebondi de 6%.
Mais pas sûr que ça dure.
Et surtout que de nouveaux droits de douane doivent donc entrer en vigueur, ça inquiète évidemment les pays concernés. Ça inquiète aussi une partie des Américains qui s'attendent à voir les prix exploser, mais ça n'empêche pas les partisans de Donald Trump de garder foi en leur président. Reportage à Eminence dans le Kentucky d'Edouard May.
Au-dessus des tulipes dans le jardin de Roy, deux drapeaux flottent au vent, celui des États-Unis et l'autre avec écrit Trump. Le retraité soutient complètement la politique économique du président, malgré les 8 000 $ de ses économies placées en bourse et perdues ces dernières semaines.
Même si les prix ne redescendent pas, il doit y avoir un autre plan. Il y a sûrement un autre plan. J'ai confiance en Trump et pas qu'en lui. Il est entouré de beaucoup de personnes très intelligentes.
Un peu plus loin, Mike Rose taille un arbre devant sa maison. Le républicain pense qu'il est trop tôt pour s'inquiéter des conséquences pour l'économie.
Il faut attendre un an, laisser Trump faire son truc et voir combien de pays remettent leurs droits de douane à zéro et que ça devienne un commerce équitable.
Le pasteur estime que ces droits de douane sont une arme de négociation qui a déjà fait ses preuves.
Comme le Vietnam, qui a proposé de baisser ses droits de douane à zéro. Eh bien, s'ils le font, Trump leur offrira des droits à zéro en retour.
Pour Mike, une fois que tous les pays auront renégocié leurs accords commerciaux, l'économie américaine redeviendra puissante. Edouard May, Éminence de le Kentucky, RFI.
Il n'y aura pour l'instant pas d'exemption, Gaëtan, pour Israël.
Benjamin Netanyahou l'espérait, ou au moins une réduction. Il est venu plaider sa cause directement à la Maison-Blanche hier, mais sans succès. Pire, Donald Trump lui a infligé ce qui ressemble quand même beaucoup à un camouflet dans un autre dossier, l'Iran et son programme nucléaire. Ligne très rouge, on le sait, pour Israël. Mais voilà que le président américain annonce que son pays est en discussion directe avec le régime de Téhéran. À Téhéran, où l'on vous retrouve Siavosh Ghazi, le ministre iranien des Affaires étrangères, a confirmé, oui, des discussions samedi, mais indirect.
Absolument. Abbas Al-Archi a affirmé que la rencontre au plus haut niveau aura lieu samedi à Oman, mais de manière indirecte. Ce sera une opportunité, mais aussi un test pour les États-Unis, a-t-il affirmé. Il devrait se rendre personnellement à Oman pour diriger ces négociations. Parallèlement à ces discussions avec les États-Unis, une rencontre doit avoir lieu aujourd'hui même à Moscou avec la Chine. Chine et la Russie qui avaient participé à l'accord de 2015 sur le dossier nucléaire. De même, une autre rencontre est prévue avec les Européens. Toute la question est de savoir quelles seront les demandes américaines. Est-ce que Washington va demander l'arrêt des programmes nucléaires mais aussi balistiques de Téhéran? Dans ce cas, l'Iran a déjà fait savoir qu'il n'acceptera pas de telles exigences. C'est en tout cas ce qu'a demandé le premier ministre israélien mais aussi des responsables américains en citant l'exemple libyen de 2003. Les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région, notamment en envoyant une dizaine de bombardiers B-2 qui sont capables de détruire les installations nucléaires iraniennes enfouies sous la montagne. De même, le président Trump a multiplié les sanctions contre l'Iran depuis son arrivée au pouvoir, ce qui rend difficile ces négociations alors que Téhéran demande précisément la suspension de ces sanctions.
Merci Siavosh Ghazi en direct de Téhéran.
Au moins 1518 exécutions l'an dernier dans le monde.
Un bilan dans un rapport d'Amnesty International qui reconnaît que c'est sûrement nettement plus puisque la Chine la pratique beaucoup mais ne donne pas de chiffres. Mais même sans les données chinoises, c'est un record depuis 2015. La faute surtout, Pierre-Olivier, à trois pays du Moyen-Orient.
L'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran responsables de plus de 90% des exécutions en 2024, dans la majorité des cas pour des infractions à la réglementation sur les stupéfiants ou pour terrorisme, notamment en Arabie Saoudite et en Irak. L'Iran a de son côté exécuté au moins 972 personnes l'année dernière et condamné des centaines d'autres à la peine capitale. Anne Denis, responsable de la commission peine de mort à Amnesty International France.
Des opposants, des dissidents, des gens qui ont manifesté pacifiquement dans la dernière campagne Femmes, Vie, Liberté. Il y a aussi des minorités ethniques, comme par exemple les Balouches, les Kurdes. Et puis cette année, donc en 2024, on a vu aussi beaucoup d'Afghans exécutés.
Le rapport note également qu'au Moyen-Orient notamment, les autorités utilisent la peine de mort pour réduire au silence les opposants et instiller la peur au sein de la population. En 2024, l'Irak, l'Iran et l'Arabie Saoudite sont donc en haut du tableau du nombre d'exécutions. Le rapport d'Amnesty International précise toutefois que, faute de données, la Chine n'a pas été référencée dans ce classement, alors que le pays compte probablement le plus grand nombre de mise à mort.
Il est 6h07 en temps universel. C'est une visite rare pour un dirigeant européen tout près d'une enclave en guerre.
Emmanuel Macron sera tout à l'heure à El Arish, considéré comme l'avant-poste égyptien du soutien humanitaire dans la bande de Gaza. Le président français ne sera pas seul, accompagné de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Ils ont déjà participé tous les deux à un sommet hier au Caire avec le roi Abdallah de Jordanie, appelant ensemble à une reprise de l'aide humanitaire et à un cessez-le-feu à Gaza, alors que selon la défense civile locale, 19 personnes ont été tuées depuis hier soir dans des frappes israéliennes.
Ça s'ajoute aux 19 secouristes et travailleurs humanitaires tués, eux, le 23 mars dernier.
Oui, 15 secouristes, c'était à Rafah. Le Croissant-Rouge palestinien a appelé hier la communauté internationale à mettre sur pied une commission d'enquête internationale et indépendante, accusant l'armée israélienne d'avoir délibérément visé cette équipe d'ambulanciers avec la ferme intention de les tuer. Berlin aussi réclame une enquête, mais alors que Gaza est isolée du monde, Oriane Verdier, quelle mise en œuvre possible ?
Nous avons posé la question à Johan Soufi, avocat spécialisé en droit international. Il reconnaît que ces appels sonnent creux.
C'est important d'appeler à une enquête, mais il y a trois, on va dire, possibilités. La première, c'est celle qui est parfois suggérée, d'appeler les autorités israéliennes à enquêter sur leurs propres actions.
Le problème, c'est que l'armée israélienne ne mène pas d'enquête indépendante et crédible sur leurs propres troupes, rappelle Johan Soufi. L'autre possibilité est de demander une enquête internationale, comme l'a fait le Croissant-Rouge palestinien ce lundi, mais les autorités israéliennes empêchent les enquêteurs d'accéder à Gaza et refusent de coopérer avec les institutions internationales. Il ne reste donc plus qu'une possibilité, selon Johan Soufi, celle d'enquête menée sur le terrain par des journalistes locaux ou des travailleurs humanitaires qui n'ont pas les mêmes compétences en la matière. Face à cette opacité, il revient donc aujourd'hui aux victimes elles-mêmes de prouver qu'elles sont bien civiles. Un renversement de la charge de la preuve, regrette l'avocat Johan Soufi, alors qu'il est normalement du devoir de l'attaquant d'établir qu'une cible est militaire.
La précision d'Oriane Verdier.
C'est pour dénoncer la guerre à Gaza qu'un rassemblement était organisé hier devant l'ambassade des États-Unis de Nouakchott en Mauritanie.
Et les manifestants dénoncent le génocide à Gaza. Pour rappel, une commission d'enquête de l'ONU accuse Israël d'actes génocidaires. Abdoulaye Sarr est le secrétaire général de l'association mauritanienne Main de la Fraternité. Il était dans le cortège hier à Nouakchott.
Ce sitting a deux objectifs essentiels. Le premier objectif, de dire à l'État mauritanien de chasser l'ambassade des États-Unis qui est l'ambassade qui parraine le génocide à Gaza. Nous considérons que les gens qui sont tués à Gaza ne sont pas tués par les sionistes, qu'ils sont tués par les États-Unis d'Amérique. Les bombes américaines et les avions américains sont celles qui tuent le peuple palestinien. Le deuxième message, c'est de dire que tous les musulmans du monde doivent bouger pour arrêter ce génocide. Et c'est pourquoi il y a une grève mondiale aujourd'hui pour soutenir la cause palestinienne. Et que tous les musulmans de Mauritanie sont là pour dire qu'ils sont pour l'arrêt du génocide à Gaza et que tout le monde doit bouger. Cette mobilisation n'est pas une mobilisation d'un syndicat ou d'une association, c'est la mobilisation de tout le peuple mauritanien. Les gens qui sont là représentent tous les partis politiques, tous les syndicats, toutes les mouvances, les étudiants, les hommes, les femmes. Cette mouvance est une mouvance nationale et il suffit d'observer pour voir qu'il n'y a pas un étendard qui réunit tout ce monde.
Des propos recueillis par Oumar Eladj Thiam.
Il est 8h11 à Paris, il y aura une palme d'or d'honneur donnée à Cannes pour Robert De Niro.
L'acteur américain la recevra le mois prochain pour la 78e édition du festival dans le sud de la France. L'annonce a été faite hier par les organisateurs. Reste maintenant à connaître la liste des films sélectionnés pour la sélection officielle. Elle sera dévoilée jeudi.
On verra s'il y aura un nouveau film somalien.
Après Le Village aux portes du paradis, présenté l'an dernier dans la catégorie Un certain regard, c'était une première pour le cinéma somalien et c'était grâce au réalisateur Mo Araoué. Après Cannes, le film sort demain dans les salles françaises. Elisabeth Le Quéré.
Quel avenir pour un enfant dans un pays en guerre, dans un village perdu en plein désert? Un père célibataire cumule les petits boulots pour offrir à son fils une vie meilleure. Alors qu'elle vient de divorcer, sa sœur revient vivre avec eux. Mo Araoué filme ses vies difficiles dans un pays dévasté.
C'est difficile à décrire. En Somalie, l'État n'existe pas. Et avec la guerre, c'est encore pire. Pourtant, les gens mènent leur vie, qu'ils cherchent un logement, de la nourriture ou l'amour. Ces gens ne sont pas des statistiques ou des numéros. C'était important de les faire exister et de montrer comment ils parviennent à survivre dans un milieu si difficile.
Affronter, c'est le sujet du film. Continuer à espérer, lutter pour arracher quelques miettes d'espoir. Par son rythme, ses ellipses, ses dialogues parcimonieux, le film nous fait ressentir la lenteur de ces vies en suspens. Mo Araoué fait naître l'émotion à partir de rien. Un silence ou un clin d'œil, comme un sculpteur ferait surgir de l'émotion à partir d'un bloc de pierre.
Elisabeth Le Quéré du service culture de RFI, les 8h13 à Paris.
Et c'était le journal de Gaëtan Plenet, on passe au sport. Avec Antoine Grenier du football, d'abord coup d'envoi ce mardi des quarts de finale de la Ligue des Champions.
En attendant le match du Paris Saint-Germain demain face à Aston Villa, on suivra ce soir Arsenal-Real Madrid et Bayern Munich-Inter Milan. Des affiches de gala qui paraissent plutôt équilibrées sur le papier, mais pas tant que ça, à croire Naïm Moniol, le consultant de Radio Foot International, pour qui deux favoris se détachent. C'est ce qu'il a confié à Eric Mamrut.
Moi je pense que le Bayern se détache d'abord parce qu'il a un léger matelas en championnat que n'a pas l'Inter Milan, et puis surtout parce que le Bayern Munich a un pouvoir offensif de très très haut niveau avec un Harry Kane qui marche sur l'eau, là où l'Inter est peut-être plus fort défensivement qu'offensivement. Il y a quand même quelque chose en plus de très gênant avec l'Inter, c'est que c'est une équipe qui ne gagne quasiment aucune confrontation directe, ni en championnat ni en Ligue des Champions. Donc je pense que le Bayern a un léger avantage là-dessus.
Arsenal-Real.
Je pense que le Real a un avantage parce que Arsenal est décimé sur toutes ses lignes. Mikel Arteta va être contraint de faire jouer des joueurs peu expérimentés, jeunes. Je regardais l'attaque, Merinos, Martinelli, Trossard, Saka qui reviennent blessure. Les quatre réunis, ils ont moins marqué à quatre que Mbappé tout seul cette saison. Donc je pense que le Real a évidemment un avantage d'expérience, mais surtout une puissance offensive de bien meilleure qualité. Et que je pense que le Real va tirer son épingle du jeu.
Arsenal, Real Madrid, Bayern Munich, Inter Milan. Coup d'envoi 19h, temps universel. Mercredi, on aura PSG, Aston Villa et FC Barcelone, Borussia Dortmund.
En Angleterre, Newcastle enchaîne et rattrape Chelsea.
Les Magpies sont allés dominer Leicester sur sa pelouse. Succès 3-0. Troisième victoire victoires de suite pour les coéquipiers de Jacob Murphy, l'anglais auteur d'un doublé qui permet à Newcastle de revenir à hauteur de Chelsea à la 4e place de la Première Ligue, et ce avec un match en moins.
Et puis en Italie, Naples piétine.
Les Napolitains tenus en échec sur la pelouse de Bologne, un but partout. Franck Zambo-Anguissa, le Camerounais, avait pourtant ouvert la marque pour le Napoli, mais Dan Doy a égalisé en début de seconde période. Naples qui rate ainsi l'occasion de revenir à un point de l'Inter et reste à trois longueurs du leader de Serie A.
Du tennis avec la suite ce mardi du Masters 1000 de Monte Carlo et l'entrée en lice du tenant du titre, Stefanos Tsitsipas.
Le grec également vainqueur du tournoi monégasque en 2021 et 2022 qui se réjouit évidemment d'entamer la saison sur terre battue. Lui qui a aussi atteint la finale de Roland-Garros il y a 4 ans. Sur cette surface, il se sent en confiance même s'il entame cette nouvelle édition avec humilité.
J'ai l'impression d'être plutôt rapide sur terre battue. J'ai toujours ressenti ça, surtout ces dernières années. Ça me donne confiance et cela m'offre des opportunités. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres joueurs ici qui peuvent vraiment très bien jouer sur terre et qui ont l'expérience de cette surface. Moi, je suis prêt pour de grosses batailles. Peu importe que j'ai déjà gagné une ou trois fois ici, j'ai toujours l'impression que chaque année apporte quelque chose de nouveau. Il y a de nouveaux tirages, de nouveaux joueurs à affronter, que ce soit dès les premiers tours ou plus tard dans le tournoi. Donc il y a toujours beaucoup de choses à apprendre de ces périodes de circuit qui reviennent chaque année. Those tour
moments that occur every single year. Premier adversaire pour Tsitsipas, l'Australien Jordan Thompson, 35e joueur mondial, tombeur du Français Giovanni Pecci-Péricard au premier tour.
Antoine Grenier pour les sports. Aujourd'hui, l'économie avec Stéphane Geneste. Bonjour Stéphane.
Bonjour Clotilde.
C'était donc un lundi noir hier pour les bourses mondiales. En Europe, le CAC 40 a clôturé à moins 4,78%. Une chute dans les mêmes proportions à Londres et à Francfort. En Asie ce matin, c'est un peu plus volatile. Reste à savoir aussi comment les marchés vont évoluer. À New York, hier, ils ont limité la casse, mais l'indicateur de peur de Wall Street a atteint son plus haut niveau en 8 mois. Alors faut-il craindre, Stéphane, un crack, une crise boursière? Quoi qu'il en soit, il existe des outils pour assurer, voire pour renforcer la stabilité des marchés financiers mondiaux.
Oui, l'occasion pour nous de refaire un petit point sur le système boursier pour bien comprendre de quoi il s'agit. Alors concrètement, en bourse, ce sont des actions qui sont vendues et achetées. Alors des actions, c'est quoi? C'est une part, par exemple, d'une entreprise. Donc si on en achète une, on devient actionnaire, propriétaire en quelque sorte de l'entreprise en question. Tout l'enjeu demeure dans la valeur de l'action et du montant auquel elle sera achetée ou vendue.
Et donc ce mécanisme est régulé?
Alors non, c'est le marché qui s'autorégule en fait. La réglementation qui existe n'a pas pour but de maintenir le cours des actions. On le disait, il est déterminé par des mécanismes d'offre et de demande. Si tout le monde veut vendre et que personne ne veut acheter, eh bien les cours vont naturellement baisser, hein. C'est le jeu entre guillemets. En revanche, oui, Clotilde, il y a une réglementation quand dans ce jeu, il y a un problème, à savoir quand le marché est manipulé ou quand une fraude est détectée chez l'un des joueurs. L'ambition est donc de protéger les investisseurs.
Donc finalement, la situation actuelle est assez naturelle. Les mesures du président américain font peur aux acteurs boursiers qui donc anticipent des craintes d'un blocage de l'économie mondiale. Mais est-ce que cette chute des cours des bourses peut continuer sans cesse et surtout sans aucun frein?
Et c'est une bonne question dont la réponse est oui et non. Oui, ça peut continuer un petit à petit, mais les marchés vont naturellement se stabiliser et trouver un point d'équilibre qui certes sera bas, mais il n'atteindra pas le niveau zéro. C'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs ce matin sur les cotations asiatiques. En revanche, il existe un frein, un garde-fou. En effet, on appelle ça un coupe-circuit. Quand un indice boursier chute trop vite, en quelques minutes, les échanges s'arrêtent temporairement. Par exemple, pour l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines, le S&P 500, c'est quand la chute est de 7%. C'est un peu comme, en fait, un bouton d'arrêt d'urgence en cas de panique pour laisser au marché le temps de respirer et de retrouver la raison. La dernière fois qu'il a été utilisé, c'était en mars 2020, au tout début de la pandémie de Covid.
Et est-ce qu'il pourrait être utilisé cette fois-ci pour éviter un crack?
Alors, on peut penser que oui, car les cours, on l'a vu, ont sacrément dévissé hier, mais pas de manière brusque, pas de manière rapide. Ça a finalement duré dans le temps, sur plusieurs heures. Cela veut dire que les échanges boursiers sont restés naturels. La régulation ne peut pas empêcher un crack, mais elle peut effectivement limiter les dégâts, éviter que la chute ne se transforme en un effondrement total.
Et pour aller plus loin et pour bien comprendre ce qui se passe actuellement sur les marchés, vous pouvez aussi retrouver le décryptage de l'économiste Nicolas Véron. C'est sur notre site internet rfi.fr à la rubrique Aujourd'hui l'économie. Merci beaucoup Stéphane Geneste, il est 8h19 à Paris. Il est docteur en géopolitique, enseignant à Sciences Po Paris, et il vient de publier ce livre aux éditions Odile Jacob, « La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer ». Frédéric Ancel est votre invité en studio, Arnaud Pontus.
Bonjour Frédéric Ancel.
Bonjour.
Bienvenue sur RFI. Le monde a vécu, on le disait à l'instant ce lundi, au rythme de la débandade des marchés financiers, conséquence des nouveaux droits de douane imposés, annoncés par Donald Trump. Dans votre dernier essai, vous nous dites pourquoi la guerre mondiale n'aura pas lieu. On a évidemment envie de vous croire. Mais est-ce que le désordre économique provoqué par le président américain pourrait nous précipiter vers un conflit ?
Alors, je ne le crois pas, parce que pour qu'il y ait conflit, il faut quand même qu'il y ait intérêt à se battre, à faire couler le sang, à perdre potentiellement beaucoup plus que ce qu'on pourrait espérer gagner avant d'entamer la guerre. Et aujourd'hui, je constate malgré tout que une partie très importante des pays ayant été en quelque sorte punis par cette annonce assez ubuesque du président américain cherche plutôt à négocier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez des pays qui se rapprochent, notamment en Asie, sur le plan économique. Enfin, qui disent qu'ils vont se rapprocher pour échanger davantage entre eux. Oui, mais ça, c'est sur le plan économique. Ce n'est pas sur le plan politique.
Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'alliance politique ou militaire contre les États-Unis.
Exactement. D'abord, contre les États-Unis, c'est strictement impossible sur le plan militaire. Ça n'a aucun sens. Ce serait suicidaire. Or, les régimes politiques, je le dis dans cet ouvrage, ne se suicident pas. Et j'ajoute un point très important. On vient d'évoquer l'économie et le politique. Ce sont deux registres de nature relativement différentes. On peut très bien s'allier, comme dans le groupe de Shanghai, par exemple, sur le plan économique, et ne pas être du tout d'accord sur le plan politique. Je rappelle quand même que dans le Cachemire, entre l'Inde et la Chine, on est pratiquement en état de guerre. Donc je pense qu'il faut tout à fait serrer et hiérarchiser ce type de registre et d'informations.
Oui, et pour appuyer ce que vous venez de dire, on voit bien que, notamment, Benjamin Netanyahou est allé à Washington pour négocier une baisse des droits de douane malgré la très grande proximité entre Israël et Washington.
Absolument, parce qu'Israël a été soumis aussi à des droits de douane. Alors, c'est pas les plus importants, mais enfin, vous savez, Monsieur Trump a un or à sa boussole. C'est le mercantilisme absolu. Il n'a pas d'alliés, il n'a pas d'ennemis, il n'a pas d'adversaires, il n'a pas d'amis. Je dépense un dollar, ou j'en ai dépensé un, avant même d'ailleurs que j'arrive au pouvoir, les Américains ont dépensé un dollar. Il faut maintenant que j'en récupère deux. Que vous soyez européen, démocrate, blanc, noir, vert, rouge, ça ne l'intéresse pas.
Est-ce que Donald Trump, est d'une manière ou d'une autre, représente une menace pour la paix mondiale, Frédéric Ancel ?
Alors oui et non. Oui, par une forme d'imprévisibilité manifeste. On l'a vu à plusieurs reprises. D'ailleurs, on l'avait déjà vu lors de son premier exercice du pouvoir. Et non, pour une raison faussement paradoxale. Il a toujours dit qu'il n'enverrait jamais un soldat américain au-delà des frontières. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait il y a 4 ans de cela, enfin entre 8 et 4 ans de cela. Et je pense que c'est quelqu'un qui déteste tout type d'expédition militaire. La plupart de ses prédécesseurs y ont sacrifié. Oui. Parfois, d'ailleurs, ils ont été appelés par les Occidentaux. Mais il considère encore une fois, pardon, j'insiste, que ça coûte beaucoup trop cher et que de toute façon, on peut s'arranger différemment. D'où d'ailleurs une injonction contradictoire. Lorsqu'il dit qu'il va créer une riviera à Gaza en chassant 2 millions de Palestiniens sans envoyer de soldats. Donc j'imagine que ce seront des plagistes, des glaciers, des promoteurs immobiliers qu'il enverra sur place. Non, c'est ridicule. Pareil pour le Groenland.
Ouais. On a vu aussi Trump se rapprocher de la Russie jusqu'à endosser le même discours, le même narratif, comme on dit, que Vladimir Poutine. Ça doit nous inquiéter ou ça doit nous rassurer
Eh bien, je vais vous dire, ça doit inquiéter bien évidemment les Ukrainiens,
bien évidemment,
et ça doit rassurer objectivement, même si c'est pas pour une bonne raison, parce que l'Ukraine a été abandonnée. Même si ce n'est pas moral, on doit s'en réjouir pour une raison très simple, c'est que par définition, deux grandes puissances, en tout cas deux puissances capables de projeter un degré de violence extrême, c'est la condition sine qua non pour une nouvelle guerre mondiale. Or, par définition et mécaniquement, si Moscou et Washington se rapprochent, même pour de bonnes raisons, eh bien le spectre de la guerre s'éloigne.
Oui. Dernière annonce de Trump, c'était il y a quelques heures, les États-Unis, l'Iran vont entamer des négociations directes sur le programme nucléaire iranien. Faut-il là aussi s'en rassurer ?
Alors oui, parce que je pense que le prisme au Moyen-Orient de Monsieur Trump n'est pas Israël, c'est l'Arabie Saoudite, qui lui rapporte énormément, qui est solvable, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui achète chaque décennie pour plusieurs centaines centaines de milliards, j'ai bien dit de milliards de dollars aux États-Unis et notamment d'armement, donc des produits à très haute valeur ajoutée. Or, l'Arabie Saoudite craint comme la peste l'avènement de la puissance adverse chiite, donc concurrente sur le plan religieux, sur le plan énergétique, sur le plan institutionnel, donc l'accession au nucléaire de cet État. Et l'Arabie Saoudite ne pouvant pas y mettre fin militairement, contrairement à l'État d'Israël, eh bien Trump décide de tout faire, y compris par la négociation éventuellement, pour protéger l'Arabie Saoudite.
Une négociation directe, ça peut surprendre, malgré tout, vu l'état des relations.
Eh ben oui, mais d'où l'imprévisibilité totale de Trump.
Oui, parce on que y
vous,
revient.
Mais oui, et vous le savez très bien. Et en août 2018, c'est lui qui avait mis fin à l'accord du 14 juillet 2015 sur le nucléaire entre les 5+1, 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne et l'Iran. Et c'était un accord qui fonctionnait bien pourtant.
Oui. La guerre mondiale n'aura pas lieu. C'est donc votre thèse. Alors on connaissait les 7 péchés capitaux, les 7 mercenaires, les 7 plaies d'Égypte. Vous avez 7 raisons géopolitiques d'espérer. 7 raisons sérieuses, hein, écrivez-vous. Parce que vous craignez de ne pas être prise au sérieux en disant ça?
Ah ben, c'est-à-dire que le climat apocalyptique servi par une espèce de posture d'angoisse, souvent d'ailleurs artificielle, ou fondée sur des éléments non hiérarchisés, vous arrivez en disant...
On y travaille beaucoup hein, dans les médias aussi, là-dessus. Non mais on peut se jeter un caillou dans notre propre jardin.
En tout cas, certains médias. Et je pense que, et notamment à Information Continue, je pense qu'il faut casser cette posture apocalyptique et quand vous venez maintenant, y compris avec des arguments tout à fait fondés, en disant écoutez, il peut et il va y avoir malheureusement sans doute encore des conflits, mais localisés et qu'il y a très peu de chances pour qu'on s'effondre façon été 14. Là, je parle surtout pour les Européens.
Oui, avec les alliances militaires qui font
avec l'engrenage. Voilà, l'engrenage du fait de cet entrelac d'alliances militaires. Ben non. Alors effectivement, au départ, on vous regarde avec un petit air. Alors sinon amusé, en tout cas rassuré, ça c'est vrai, mais quand même un petit peu amusé. Et moi, je pense que ces 7 raisons sont absolument fondées et effectivement très sérieuses.
Alors, vous évoquez le concept de choc des civilisations qui, selon vous, est un fantasme, l'efficacité de la dissuasion nucléaire, le poids des opinions publiques qui sont contre la guerre, et puis le fait que les alliances militaires ne sont pas ce qu'elles étaient, notamment en 1914. Vous venez de nous le dire. Et vous assurez aussi qu'il n'y aura pas de guerre mondiale parce que le continent africain ne suscite pas d'intérêt primordial chez les grandes puissances asiatiques, russes et occidentales, malgré les enjeux, malgré les conflits en cours sur ce continent. Il y a un désintérêt profond pour l'Afrique.
Profond. Et c'est une tragédie. Ça renvoie d'ailleurs à une forme, je le dis souvent à mes collègues et à mes confrères universitaires, je le dis à des diplomates ou à des officiers que je rencontre très régulièrement en Europe et ailleurs, c'est une forme de racisme rentré. C'est-à-dire que on s'y intéresse beaucoup moins. Pourquoi ? Le kilomètre émotion, certes. Sauf que une partie de l'Europe est au moins aussi éloignée de l'Est du Moyen-Orient que du nord ou du centre de l'Afrique, par exemple. Et donc, pourquoi, néanmoins, on s'intéresse, je dis les diplomates, je dis peut-être un certain nombre de journalistes, les universitaires, et là, c'est à moi d'en prendre quelque part pour notre grade, pourquoi s'y intéresse-t-on moins, substantiellement moins? Et je pense que là, on a affaire à quelque chose, à une représentation, alors, sinon négative, en tout cas, indifférente. Et c'est la raison pour laquelle je parle de véritable tragédie.
Oui. Vous dites les États-Unis, c'est par manque d'intérêt stratégique ou isolationniste. La France et le Royaume-Uni du fait d'un passé colonial complexe et la Chine par souci de promouvoir ses intérêts strictement commerciaux et sans plus.
Oui, et lorsque je parle de tragédie, c'est aussi celle de ces 2%. 2%, ça correspond concrètement à au PIB mondial de l'Afrique. Et si vous voulez, un président américain aujourd'hui, mais même s'il est moins cynique, moins mercantile que Trump, ne va pas s'y intéresser énormément. Pensez à Biden, pensez à Obama. Oui. Personne ne s'y intéresse, notamment aussi, malheureusement, parce qu'il n'y a pas, entre guillemets, suffisamment de business à faire.
Merci Frédéric Ancel d'être venu ce matin. La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer, et il y en a, je vous incite à le lire, c'est chez Odile Jacob. Merci d'être venu ce matin.
Et c'est un entretien à retrouver sur notre site internet rfi.fr. Restez avec nous dans un instant, l'actualité africaine.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
imagerie médicale, diagnostic, suivi et traitement des maladies.
Demain,
chikungunya, l'île de la Réunion frappée par une épidémie.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Ce mardi sur RFI.
Que peuvent nous apprendre les insectes?
Autour de la question, avec Charlie Dupiot.
Des fourmis qui cultivent des champignons pour se nourrir, des abeilles qui guident leurs congénères grâce à une danse d'orientation, les insectes nous étonnent par leur faculté et leur intelligence. Ces animaux ont-ils une forme de conscience? Sont-ils vraiment si différents de nous?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU, sur RFI. Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.